monde se connaît, ou presque. Il y a certainement des personnes âgées qui savent encore quelque chose. Ce qui s'est passé dans un petit village comme l'Écluse, c'est traumatisant, quoi. Beaucoup de soupçons, mais pas de coupables, malheureusement. C'est un crime parfait dans un petit village.
Bonsoir, l'amour et la jalousie. Albert Lermoyer aimait-il trop les femmes au point d'être assassiné dans son sommeil une nuit de l'hiver 1983 où il dormait seul. Près de 40 ans après, la mort de l'adjoint au maire de L'Écluse, petite commune du Nord, demeure un insondable et palpitant mystère criminel. L'enquête va durer une dizaine d'années et révéler la double, triple, voire quadruple vie de la victime, un sémillant célibataire apprécié de tout le monde. Les gendarmes puis les policiers vont chercher dans cette vie privée agitée, le mobile du meurtre est vite se heurté au lourd silence d'un village où tout le monde se connaît, où chacun a sa petite idée sur le crime, mais où personne ne dit rien. C'est cette histoire dans laquelle les pistes s'entremêlent, comme dans un roman d'Agatha Christie ou de Simenon, que nous allons raconter ce soir. Qui en voulait autant à Albert Lermoyer au point de l'exécuter? Pourquoi la vérité ne se montre pas? Question posée ce soir à nos invités, parmi lesquels le juge Éric Alphen, l'un des juges qui avait instruit cette affaire.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, le meurtre de Albert Lermoyer à l'hiver 1983 dans un village du Nord. L'adjoint au maire, célibataire amical, figure locale qui faisait l'unanimité, est retrouvé sans vie dans son lit. Ce mardi 25 janvier 1983, dans la matinée, la belle-sœur d'Albert Lermoyer se demande pourquoi ce dernier n'est pas passé à la maison pour le petit déjeuner. Depuis toujours, Albert, un célibataire de 47 ans, a l'habitude de prendre tous ses repas chez son frère et sa belle-sœur. Ils habitent juste à côté, rue de la Fontaine, à L'Écluse, une petite commune du Nord, posée entre Arras, Cambrai et Douai. Albert était chez eux la veille au soir pour le dîner. Il avait l'air en forme, il ne se plaignait de rien, il n'avait pas l'air malade. Il a allumé une cigarette, puis est rentré chez lui au numéro 27, une demeure en briques, l'ancienne ferme familiale où il vit seul. La belle-sœur est inquiète. Elle se rend donc chez Albert et trouve la maison silencieuse. Elle grimpe jusqu'à la chambre. Son beau-frère semble profondément endormi. Côté gauche du lit, la tête sur le côté droit, elle s'approche et comprend aussitôt. Son beau-frère ne respire plus, ni blessure ni sang. L'homme est mort dans son sommeil, sûrement d'une crise cardiaque ou d'un AVC. La belle-sœur prévient aussitôt son mari et le maire de la commune. Le médecin du village, le docteur Jean Zarimba, est appelé pour constater le décès. Quand il arrive dans la maison, il croise une foule de personnes, parents, amis, accourus après avoir appris la nouvelle. Le docteur Zarimba est intrigué par une petite plaie au coin de l'œil gauche qui a provoqué un glaucome à l'œil. Peut-être une coupure, mais le docteur pense à autre chose, à une blessure par balle. Il manipule alors le crâne et constate un mince filet de sang qui s'échappe de l'oreille droite. Il s'agit selon lui de l'orifice de sortie du projectile. La balle a traversé de gauche à droite le cerveau, il en est certain. On a tué Albert Lermoyer. Le permis d'inhumer est refusé. Dans les heures qui suivent, les gendarmes débarquent au numéro 27 de la rue de la Fontaine. Une scène de crime loin d'être intacte vu le nombre de curieux qui ont déjà défilé ici. Ils cherchent la balle qui a tué Lermoyer, adjoint au maire, ouvrier des établissements Stora Béguin, un papetier qui fabrique entre autres le catalogue de la Redoute. Deux jours plus tard, la balle est retrouvée fiché dans une plinthe de la chambre à coucher de la victime. Elle est minuscule. La balistique indique qu'elle a été tirée par une arme ancienne, un revolver espagnol modèle 1892, un calibre 8 mm, une arme longtemps en dotation dans l'armée française. Difficile de savoir qui en voulait à cet homme au point de l'avoir exécuté comme le ferait un tueur à gages. Certainement pas un intrus ou un cambrioleur, mais tout au contraire quelqu'un qui connaissait intimement la victime et ses habitudes. Un mois déjà que Albert Lermoyer a été tué. Les gendarmes des brigades d'Arleux et de Douai sont bien décidés à élucider ce crime qui n'a pu être commis que par une personne qui côtoyait la victime. Les enquêteurs en veulent pour preuve que les deux chiens d'Albert, du genre plutôt bruyant à la vue d'un étranger, n'ont pas aboyé cette nuit-là. Le meurtrier a également choisi un soir où il ne risquait pas d'être vu ou dérangé, Le voisin direct de la victime s'étant exceptionnellement absenté. Enfin, le tueur connaissait parfaitement les lieux. Il est passé par la porte de derrière qui n'est jamais fermée à clé. Les marches de l'escalier craquent, ce qui aurait pu réveiller Albert. Il n'est donc pas exclu que l'assassin l'ait attendu dans un recoin à l'étage, l'a laissé se déshabiller et s'endormir avant de passer à l'acte. Le petit calibre n'a émis qu'un claquement sec, pas de quoi réveiller le quartier. Les gendarmes recherchent cette arme dans la maison, les puits et les cours d'eau sont sondés, les talus inspectés sans résultat. Pistolets, revolvers et fusils datant de la Deuxième Guerre mondiale ne manquent pas à l'écluse, mais pas de revolver espagnol modèle 1892. L'enquête n'a pas de mal à établir que Albert Lermoyer n'était pas vraiment un célibataire endurci. Rien d'un vieux garçon solitaire. À l'écluse, tout le monde savait qu'il était un coureur de jupons. Les noms d'au moins 3 ou 4 femmes sont cités. La première à être entendue et placée en garde à vue par les enquêteurs n'est ni plus ni moins que sa propre belle-sœur qui a trouvé le corps. Albert aurait entretenu avec elle une liaison épisodique, mais cette piste ne tient pas. La belle-sœur n'avait aucune raison d'en vouloir à Albert. Elle est sincèrement éplorée par sa mort. Elle est mise hors de cause. Il y a encore Marcel, une agricultrice que Albert avait fréquentée. Tous deux se côtoyaient dans la cellule locale du Parti communiste, parti qui a toujours régné sur la commune. Le bruit va courir que Marcel aurait possédé un revolver espagnol. Sa ferme va être vainement perquisitionnée. La liste des amies, amantes ou prétendantes du bel Albert ne s'arrête pas là. Après avoir vécu longtemps seul, l'homme était sur le point de se mettre en ménage avec une certaine Morissette. Il y a enfin une voisine qui a accouché d'une petite fille que Albert n'a pas reconnue. Un compagnon ou un mari jaloux de toutes ses maîtresses aurait-il réglé son compte à l'adjoint au maire ? À l'écluse, le silence prévaut. La juge d'instruction de Douai, Martine Verrague, la première à hériter du dossier, se heurte à des impasses. Impossible de trouver une piste solide conduisant au meurtrier d'Albert Lermoyer, un cavaleur qui a peut-être éveillé des jalousies. Le nom d'un homme apparu très tôt dans l'enquête va toutefois refaire surface. Pas n'importe qui, c'est un policier. En ces premiers mois de l'année 1984, le jeune juge Éric Alphen, qui s'illustrera bien des années plus tard avec l'enquête sur la mairie de Paris, reprend le dossier Lermoyer. Il vient d'être nommé à Douai et l'enquête semble enlisée. Quand il s'informe de cet immobilisme, un de ses collègues lui répond « Tu vas voir, l'écluse, c'est la petite Corse », analogie avec l'omerta qui règne parfois en matière criminelle sur l'île de Beauté. Le juge Alphen dessaisit alors les gendarmes au profit de la PJ de Lille. Il se plonge dans la procédure et note que les gendarmes ont méticuleusement exploré toutes les pistes. La magistrate qui l'a précédé, Martine Verrague, a procédé à plusieurs auditions, dont celle d'un policier, un inspecteur divisionnaire du commissariat de Douai, dont il connaît bien le nom et qu'il croise dans les couloirs du palais de justice. Ce policier était soupçonné de détenir une arme identique à celle qui a tué l'adjoint au maire. Il avait alors démenti. Le juge creuse la piste de l'enquêteur et relève de drôles de coïncidences. Ce policier est originaire de l'Écluse. Il connaissait bien Lermoyer. Qui plus est, il est le frère de Marcel, l'agricultrice, l'une des relations féminines d'Albert. Autre curiosité, un an quasiment jour pour jour avant le meurtre, son épouse, qui aurait pu avoir une liaison avec Lermoyer, s'est volatilisée. On a retrouvé que sa voiture devant la gare de Béthune. L'épouse n'est jamais réapparue. Un soir de beuverie, l'inspecteur aurait déclaré à la cantonade « J'ai tué ma femme et j'ai emmuré son corps dans un immeuble en construction près d'Avesnes-sur-Helpe ». La PJ enquête donc sur ce drôle de collègue. Il est établi qu'un armurier de Douai l'a eu comme client. Le policier recherchait des munitions de calibre 8 mm, le calibre du meurtre, pour une arme ancienne. Armurier et inspecteur sont confrontés. Le premier maintient ses déclarations, le second dément, répète qu'il n'a jamais possédé de revolver espagnol modèle 1892. Le face à face en reste là. Le juge Alphen a des doutes, mais il ne peut pas les étayer. L'inspecteur divisionnaire Marie Trompé aurait-il éliminé son épouse, puis par rancœur et vengeance tué un an plus tard à une date anniversaire Albert Lermoyer. Des supputations, uniquement des supputations. L'enquête n'ira pas plus loin. Les mobiles, on le voit, ne manquent pas, en particulier celui d'une liaison amoureuse. Mais impossible de savoir qui a tenu l'arme du crime. Les rares témoignages recueillis à l'écluse où personne n'a envie de parler finissent par se tarir. Tout le monde va vouloir oublier la mort de l'adjoint au maire. Le 4 février 1991, le juge délivre une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Lermoyer. Les gendarmes, puis les hommes de la PJ de Lille, n'ont pas réussi à engranger un élément, un indice, un témoignage susceptible d'éclairer ce mystère. Dès les premières heures de l'enquête, ils avaient dû composer avec une scène de crime largement polluée par le passage de nombreux visiteurs venus saluer un défunt qu'on croyait mort de sa belle mort. Le village de l'Écluse s'était ensuite refermé comme une huître, ne laissant filtrer aucune information digne de ce nom. La recherche ADN, inexistante à l'époque, ne pourra donc pas contribuer à élucider cette affaire. Aucun nouvel acte d'instruction diligenté pendant 10 ans. Le dossier est déclaré prescrit le 4 février 2001. Le procureur de la République de Douai refuse en 2012 de rouvrir l'enquête comme le demandait la fille cachée d'Albert Lermoyer. Il explique qu'aucun élément nouveau n'est apparu. Désormais, seul un témoignage ou une confession pourrait relancer l'affaire. 40 ans après les faits, personne ne sait si l'homme ou la femme qui a tué Albert Lermoyer est toujours de ce monde. À l'Écluse, où ce drame silencieux a marqué durablement la mémoire de la commune, on aime bien répéter que ce crime-là était un crime parfait.